détour, Madeleine Caboche.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous avais annoncé hier une femme extraordinaire. C'est en effet Zora que nous allons croiser ce matin, grâce à Frédéric Chauffat et à Julie Gilbert. Zora à Tanger, nord du Maroc bien sûr. Tanger, cinquième ville du pays. Alors, c'est une sorte de retrouvaille, puisque... Bonjour Julie Gilbert.
Bonjour.
Vous nous avez offert des reportages dans des tours au début du mois de septembre, où précisément nous sommes allés à Tanger, grâce à vous, rencontrer plusieurs communautés. Et là, on avait envie de mettre un peu en exergue cette femme qui vous a impressionné. On dira pourquoi tout à l'heure. Mais d'abord, on va essayer de faire un plan large. Hein. Vous êtes tous les deux scénaristes et cinéastes, et vous avez cette boîte, les films du tigre. Donc on va être cinéma et on va dire plan large, Tanger, on va à la Médina.
Plan large, Tanger, effectivement. Alors la Médina, c'est un très joli quartier de Tanger, c'est un ancien quartier. Et on n'est pas du tout loin de la place de la Bastonnade, qui est dans la Casbah. Donc on est vraiment à la limite entre la Casbah et la Médina. Et là, on voit la mer. Donc il faut imaginer ça, si on a le plan large, on a la mer, on a l'Espagne en face. Et puis on passe la place de la Bastonnade, on passe sous une grande porte, les anciennes portes en fait de Tanger. Et on rentre le long des ruelles de la Médina. Et on arrive chez Zora.
Alors Zora, femme impressionnante, s'il en est, et nos auditeurs vont le découvrir en écoutant cette émission des tours. Qu'est-ce qui vous a impressionné chez elle ?
Parce que c'est une femme qui a vécu plein d'aventures. Alors peut-être que c'est le lot de beaucoup de femmes à Tanger, mais Zora a vraiment vécu beaucoup d'épreuves. Une des premières choses qu'elle nous a racontées, c'est qu'elle a... En fait, ben voilà, Zora, elle a eu trois enfants. Et l'aîné de ses enfants avait un problème au cœur. Elle vient d'un milieu plutôt populaire, donc pas beaucoup d'argent. Vivant dans un appartement assez petit de la Médina. Et sa fille avait ce problème au cœur, vraiment très très grave. Et tout le monde lui a dit, écoute, on ne pourra rien faire pour elle. Et puis à force de demander, de dire, mais c'est pas possible, je ne vais pas laisser cet enfant avec son cœur comme ça, qui va peut-être un jour s'arrêter. Elle a rencontré quelqu'un qui lui a dit, il y a Terre des Hommes qui existe et si tu veux, on fait les papiers et on envoie ta fille, Leïla, en Suisse. Alors Zora, elle disait, mais moi, je suis jamais sortie de Tanger, comment je vais envoyer ma fille en Suisse? On lui dit, écoute, c'est comme ça. Le principe de Terre des Hommes, c'est que tu ne peux pas l'accompagner. Donc elle a dû signer une décharge, comme quoi c'était plus sa fille, dans le sens où aussi, s'il arrivait quelque chose à sa fille durant l'opération, elle ne pourrait pas réclamer ou faire intenter un procès ou je ne sais quoi. Donc elle a laissé partir sa fille qui était, je crois, elle avait autour de 8 ans, ou 10 ans, je ne sais plus. Et donc elle part. Et au lieu d'aller en Suisse, alors là, c'est parfois, il y a des mystères dans la vie, elle arrive à Marseille. Alors pourquoi ? Elle n'était pas capable de le dire parce qu'elle n'était plus avec sa fille. Donc elle arrive à Marseille et là, elle va être opérée à Marseille grâce au fait qu'il y a un monsieur extrêmement riche qui doit se faire aussi opérer du cœur. Et dans la tradition de ce monsieur, il disait « si je fais bénéficier une jeune fille de l'opération du cœur, c'est-à-dire si je paye l'opération de cette jeune fille, peut-être ça me portera chance et moi aussi, j'aurai un nouveau cœur neuf et solide. » Donc c'est ce qui se passe.
C'est une magnifique histoire ça.
Voilà. Ouais.
Alors c'est une des choses, c'est un parcours de vie incroyable. Ce qu'on va entendre, et elle le dira elle-même, c'est que c'est vraiment une femme libre.
Hein, oui. c'est ça qui était le plus beau en fait, c'était de voir une femme extrêmement traditionnelle dans son apparence, on va dire, et qui avait une vitalité et surtout un franc-parler qui était vraiment exaltant.
On la retrouve après une première chanson. Et ce qu'on va préciser à nos auditeurs, c'est que il y avait tellement de choses, vous l'avez rencontrée longuement, donc c'est toujours difficile de faire des choix dans ce qu'on coupe d'une interview. On a un petit peu axé sur la thématique du mariage, hein, à la fois le sien, à la fois celui de ses enfants. Donc c'est un petit peu ce qui va être en filigrane le fil rouge de ce détour autour de Zora. On la retrouve et vous nous situerez exactement, on sait qu'on est dans la Médina, le plan va se rapprocher tout à l'heure, et on entrera dans sa maison que vous allez nous décrire juste après, Julie Gilbert, cette chanson de Zaz.
Mmh.
appartient et ne remettre à rien en cause ce que je suis ni d'où tu viens. On en retiendra quelque chose. Cette journée pour toute une vie, comme si on avait mis sur pause ce que tu es, d'où je suis, tout ce qu'on s'est dit, je suppose. Au lendemain de nos adieux, sur le chemin de ma vraie vie, une autre couleur dans les yeux, un peu de peur et d'interdit. Comme on s'est laissé par amour, sans la tristesse des regrets, comme un accord et pour toujours, un peu de nos caresses en secret. Cette journée nous appartient et ne remettre à rien en cause ce que je suis ni d'où tu viens. On en retiendra quelque chose. Cette journée pour toute une vie, comme si on avait mis sur pause ce que tu es, d'où je suis, tout ce qu'on s'est dit, je suppose. Ah. Si les années sont passées sur ton visage et ton sourire, si j'ai bien souvent repensé à ton odeur et tes soupirs, à me redemander pourquoi, si je ne sais plus qui j'étais avant que ce soit toi et moi, pour quelques heures, tout jamais. Cette journée nous appartient et ne remettra rien en cause ce que je suis ni d'où tu viens. On en retiendra quelques.
Retour à Tanger, on a beaucoup parlé de Tanger dans des tours, la Tanger aussi qui a attiré tous ces artistes. On a parlé aussi de la migration. Aujourd'hui, on fait plus ample connaissance avec ce personnage incroyable de Zora qui a une soixantaine d'années. Donc on fait un plan encore plus serré, Julie Gilbert, et on décrit sa maison.
Oui, alors on est devant la porte, donc c'est les portes de la Médina, c'est des très grosses portes en bois. Et on a l'impression qu'on va rentrer dans des très très grandes maisons, ce que ça peut... Peut-être ça a été à un moment donné. Mais là, en fait, la porte s'ouvre et on entre dans un petit appartement avec un très gros salon parce que le salon est très, très important chez les Marocains. C'est le lieu, c'est la pièce principale, c'est le lieu où on accueille les gens. Et c'est là aussi où on dort souvent. Donc, c'est vraiment une pièce en fait, qui sert à plusieurs fonctions. Donc,
ce qui est le cas, là, ils dorment tous.
Alors, pas complètement parce qu'elle a quand même des chambres à l'étage. Mais par exemple, elle a juste une chambre à l'étage et une salle de bain, je sais pas d'ailleurs si on l'entendra dans le reportage, qui a été offert par un ami qui a pu construire cette salle de bain. Donc c'était tout une affaire en fait, parce que sinon elle m'a montré, elle avait encore un lavoir vraiment traditionnel avec les histoires de seaux qu'il faut transvaser pour pouvoir faire la lessive, la vaisselle, etc. Donc là, elle était assez fière de sa salle de bain. On l'a visitée, mais le salon était très beau avec ces rideaux très lourds, très ouvragés, dorés, marrons. Enfin, dans ces couleurs-là. Et voilà, elle nous accueille très chaleureusement et nous invite dans son salon, justement.
Bonjour.
Bienvenue.
Salam alaikum.
Alaikum salam. Bonjour. Ça va?
Très bien.
Trois. Ah, c'est notre habitude. Hein. Ah. Avec les hommes, on serre les mains. Avec les femmes, on s'embrasse par visage.
Pas mal.
Vous ne devez pas le faire, ça, non?
C'est un plaisir de vous offrir du chocolat.
Merci bien. Passe. Bienvenue.
Est-ce qu'on garde les chaussures?
On peut les enlever là peut-être?
Donc on arrive chez Zora qui nous a préparé des petits gâteaux au chocolat, du thé à la menthe. Il y a des beaux canapés dans un petit coin de sa maison. Voilà.
Je vous sers le thé. Ça va?
Ça va super
bien. Ça passe bien?
Et vous alors, vous êtes une habitante tangéroise de toujours?
Je suis vraiment une d'origine. Disons que mes parents aussi sont des tangéroises. Vous voyez, mon père, c'est un tangérois. Même qu'il n'est pas... C'est un riffin, mon père, Berber. Maman, elle est tangéroise, mais pas dans la ville, c'est de la campagne. Mais elle est née à la ville.
Comment vous parlez si bien français?
J'ai étudié à l'école, monsieur.
À Tanger?
Oui, à Tanger. Parce que mon père insiste qu'on étudie. Nous étions 11 dans la famille, vous voyez.
Et il a envoyé tout le monde à l'école?
Tout nous. Mais le malheureux, il ne peut pas continuer avec nous. C'est pas qu'il ne peut pas. Il faisait tout ce qu'il pouvait comme effort. Moi, je suis arrivée aux premières années bac. Alors, il fallait que je m'habille bien et tout ça, vous voyez, parce qu'à l'époque, il y avait des profs français, et des étudiants mélangés français-arabe. Et puis, parce que moi, j'étais bonne élève, et mon père remarquait ça, il insistait que moi, je continuais. Il m'a dit, ma fille, si les autres veulent arrêter, toi, parce que je vois tes notes, alors je fais mes efforts pour que tu puisses continuer. Voilà. Mais j'ai un frère qui est plus l'aîné. Ce frère-là, il voulait pas que j'étudie. Je ne sais pas si c'est la jalousie, parce que mon père, chaque instant, lui dit, regarde ta sœur, les bonnes notes qu'elle a, regarde. Et mon frère, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait se marier. Et mon père lui dit, tu te maries pas si tu termines pas tes études. Vous voyez? Alors, il insiste, mon frère, que je termine pas, que je reste à la maison, que je me marie, sinon il va me tuer. Et moi, je voulais travailler. Alors, c'est un secret parce que je ne le dis pas à tout le monde. Je vois que je vais arrêter parce que mon frère me frappait pour que je n'aille pas à l'école, me déchirer les habits et tout ça. Alors, j'ai réfléchi et j'ai dit, bon, je vais arrêter parce que je ne peux pas... Je ne suis pas aussi puissante que mon frère, vous voyez. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé à faire? Le dactylographe. Alors, j'ai demandé à mon père, je lui dis, voilà mon père, je veux aller faire le dactylographie, comme ça, je travaille, je t'aide. Je te rends un peu de ce que tu as fait avec moi. Il m'a dit, bon, d'accord, ma fille. On faisait le dactylo, un jour, j'étais en train de me changer, le matin, et j'avais le verre de thé à côté de moi. Il m'a dit, mon frère, où tu vas? Je lui dis, je vais, surtout aujourd'hui, on a la composition en dactylographie, alors je dois être présente. Il m'a dit, tu ne vas pas. Je lui ai dit, je vais. Il a pris un verre. Il a lancé vers moi. Et vous voyez, c'était comment il est vert, bleu. Regardez bien la comparaison. Je fais le noir pour faire cacher un petit peu.
Ils sont très beaux tous les deux.
Non, merci bien. Mais quand même, il fallait que je fasse ici, comment on dit, sec. Voilà, sec. Le verre jusqu'ici, et ça a ouvert tout de suite. Et au lieu que je laisse le sang couler, moi, je l'ai pris comme ça. Et puis, ça restait dedans. Regardez.
Oh, ouais, ça fait une tache.
Une tache ici. Et puis, ici, c'est toujours bleu.
Et par contre, votre vue, elle est intacte?
Très, très bien. Alors là, je me suis arrêtée, je suis allée voir le docteur, il m'a dit, si tu veux, je te fais un certificat, il ne doit pas te faire comme ça. Alors c'était, je vais faire un scandale pour mon père, le pauvre père. Je savais que mon père, il sera d'accord, mais quand même, sur son fils. Je dis au docteur, non, s'il vous plaît, faites-moi une bonne couture, que ça ne se voit pas. Il m'a dit, bon, d'accord, il a eu pitié de moi. Ça y est. J'ai terminé la dactylographie et il y a un monsieur qui venait me demander la main, que je ne connaissais pas. Alors, mon père me disait, tu vois ma fille, moi, je pense que tu dois te marier. Au lieu de rester à côté de lui, parce qu'un jour, il va te tuer celui-ci. Il est tout à fait comme un animal. Et je me suis mariée. Et en se mariant, je pouvais travailler avec l'étude que j'ai eue. Mais le mari... aussi, pas de chance. Oh. Le mari me disait, oui, tu vas travailler, mais pas cette année, l'année prochaine. Maintenant, reste un peu à la maison, tata matata. Alors, je lui dis, est-ce que tu peux m'acheter ce que je voulais? Il me dit, oui, je ferai tous mes efforts pour que tu sois heureuse chez toi, mais ne sors pas pour travailler parce que j'ai peur que tu vas te changer. Tu vas changer. Parce que les idées, aussi mon mari, c'est un ignorant, il n'a jamais été à l'école. Seulement, il allait... en Msid. Vous savez ce que ça veut dire, Msid? C'est l'école où on apprend le Coran.
Qu'est-ce qu'il faisait comme métier, votre mari?
Mon mari, il travaillait comme garçon du café.
Détour jusqu'à 14h sur la première.
Ezora, au micro de Julie Gilbert et de Frédéric Chauffat, juste après Moby. Vous écoutez Détour et nous faisons de plus en plus connaissance avec Zora. Alors, on l'a entendu tout à l'heure, cette femme, aujourd'hui la soixantaine, qui raconte comment à la fois le frère et le mari, plus tard, refusent qu'elle fasse des études, malgré le papa qui lui avait très très envie. Hein. C'est étrange ça.
Oui, c'est presque une histoire quand même très dramatique d'avoir cette ambition d'une jeune femme qui est complètement tuée dans l'œuf. Et puis, lorsqu'on n'entend pas là, c'est que sa mère aussi...
Sa propre mère
s'était mise aussi contre elle, c'est-à-dire elle et sa sœur allaient à l'école. Et puis leur mère, qui avait effectivement 11 enfants, qui devait faire tout, toute seule, s'occuper des enfants, laver, faire à manger, etc., elle n'en pouvait plus. Et elle a dit aux filles, non, mais c'est hors de question, vous continuiez vos études, moi je vous veux à côté de moi.
Oui, parce qu'elle avait besoin, dans son raisonnement, c'était qu'elle avait besoin d'aide. Ouais.
À cette époque, même ça continue encore aujourd'hui, c'est surtout les filles qui étaient astreintes à ce genre de tâches. Et en fait, Zora nous racontait que du coup, pour pas se mettre en colère contre leur mère, elles faisaient tout ce qui était à faire et après elles se relevaient la nuit toutes les deux et elles avaient une petite lumière que leur père leur avait installée parce qu'ils savaient qu'il y avait ce problème-là et elles faisaient leurs devoirs. Donc il y a vraiment une volonté comme ça d'apprendre, une soif de se transformer, de changer qui a animé en fait Zora.
Mais avec le pouvoir du père finalement très relatif.
Très relatif. Ouais. Parce qu'il était très absent,
ah oui.
En fait. C'est simplement ça, je pense.
Julie, vous avez l'impression aujourd'hui, bon, vous n'avez pas fait une enquête statistique, mais en sentant dans l'air du temps comme ça là-bas à la Médina, que ces choses-là bougent, puisque ça se passait il y a 40 ans.
On espère qu'elle bouge. En tout cas, quand on a rencontré les femmes du Talim, c'est-à-dire le Talim, c'est la légation américaine qui offre des cours d'écriture, d'écriture, mais aussi des cours de couture, de cuisine, d'anglais aussi. Quand on en avait discuté avec les organisatrices, elles disaient que de plus en plus de femmes de la Médina venaient en fait assister à ces cours et que ça, c'était même, elles étaient obligées d'ouvrir tout le temps des nouveaux cours. Donc c'est quand même un signe que oui, ces femmes ont envie de pouvoir prendre en main aussi leur destin, leur quotidien, même si le mariage reste très 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 important, comme en fait on va le voir dans les chapitres suivants.
Leïla, elle étudiait très très bien, bonne élève, et puis elle faisait le dessin. Et moi, je travaillais que pour elle, pour l'aider. Et puis, elle est arrivée en classe de baccalauréat. Elle m'a dit, je ne veux plus continuer. J'ai pleuré parce que je ne veux pas qu'elle arrête. Elle était bonne élève, sage, sérieuse, mais malheureusement. Elle s'est mariée. Lui ne connaît pas ma fille. C'était Anazar. Anazar. Elle est maintenant à Dubaï. Elle parle un peu l'anglais. Elle a appris l'anglais. Elle voulait travailler, mais lui, il disait pas maintenant. On verra.
Et comment ils se sont rencontrés ?
Comment ils se sont rencontrés ? C'est une histoire, monsieur. Voilà. Elle, toujours installée à la maison, si je sors, elle m'accompagne. Si je ne sors pas, elle est à la maison. Ce monsieur et sa maman sont venus chez ma cousine de Londres. Et ce jour-là, moi, je voulais aller visiter ma cousine. Alors, j'ai dit à ma fille, Laïla, est-ce que tu peux m'accompagner ? Il m'a dit, oui, maman. Nous sommes allés tous les deux, ce jeune garçon était avec sa maman chez ma cousine. Dès que nous sommes arrivés, il a dit à sa maman, « Maman, voilà la fille que je cherchais. » Alors, la maman a fait semblant qu'elle est allée dans une pièce pour quelque chose, et puis il a appelé Laïla, elle a dit, « Laïla, est-ce que tu peux venir, je veux te parler ?» Laïla est allée comme ça, il m'a dit, « Maman, je lui dis, c'est gentil, elle va te demander quelque chose. » J'avais pas l'intention que... Alors, soudain, la maman est sortie de cette pièce. Je ne sais pas où il était caché. Et puis, il a fait signe à son fils qu'il vient, lui, s'installer à côté de Laïla pour se mettre d'accord. Vous voyez? Alors, ils se sont installés, tous les deux. Moi, je ne savais pas. Et la maman s'est cachée dans un autre... Je croyais que la maman est là, mais elle n'était pas là. C'était que le garçon et la fille. Alors, ils ont étudié entre eux la vie, qu'il travaille lui, et comment est-ce qu'elle peut vivre là-bas. Et après, ils sont entrés tous les deux en souriant. Moi, j'ai dit, mais tu étais où? Et ce monsieur, où il était avec toi? Alors, il m'a dit, maman, tu vas entendre la maman de Youssef qui va te parler. Je lui dis qu'est-ce qu'il y a. Elle m'a dit, oh, regarde, je viens demander la main de Laïla pour mon fils parce qu'ils sont tout à fait d'accord. Dans un instant, il m'a dit oui. Mais je lui dis, mais c'est pas possible. Il faut, je le connais bien. Ma cousine m'a dit, moi je le garantis pour toi, Zora. C'est un bon jeune garçon. Alors, laisse-le se marier. Parce que je suis tout à fait d'accord que ta fille va être une bonne, heureuse et bien chez elle. Et je dis à mes filles, mais tu es d'accord pour aller à Dubaï? Tu sais, il y a 4 heures de plus qu'ici. Elle m'a dit quand même, maman, moi je suis toujours à la maison, alors je vais faire ma maison à moi seule. Elle était d'accord. Maintenant, il y a un garçon. Et je vais vous montrer les photos. Tout de suite ou pas? Ok. Voilà. Alors, prenez le gâteau que vous voulez.
Elle est contente à Dubaï?
Oui.
Elle est partie quand à Dubaï?
Le mois mars 2000, vous voyez, il y a 2 ans.
2011.
C'était le mariage.
Elle n'est jamais revenue depuis?
Pas encore. C'est toujours Laïla, parce que les habits, on appelle les habits de la princesse. Elle doit être tout est blanc.
D'accord, il y a plusieurs habits hein, pour le mariage.
Oui,
c'est ça,
je vais vous montrer plusieurs.
Donc, ça, c'est les habits de la France.
Voilà, ça, c'est pour sortir.
D'accord, il y a le moment où on sort. Oui. Okay.
Ça aussi, elle doit s'installer parce que ça, C'est la cage de la princesse et elle habillée à la princesse.
Donc c'est une cage faite en perles avec entièrement brillante, toute blanche. Voilà. Elle porte une couronne sur la tête. Oui. Elle a les mains dessinées au henné. Voilà. Oui. Et puis donc elle est assise dans cette cage et elle sort.
Dans la cage, on la soulève et il y a 4 hommes, jeune garçon. On la soulève et puis il y a la musique et on danse. Et ceux qui soulèvent le cage avec Leïla, eux aussi, ils dansent en la faisant pousser de ce côté à ce côté. Mais après ce mariage, ils sont partis tout de suite à Dubaï. Parce que lui, il travaille à Dubaï, il habite Dubaï. Ouais. Et voilà, ce sont les habits quand elle devait quitter parce que... Puisque c'est petit ici, je ne peux pas faire une fête. Alors, je dois louer un salon de fête.
Les parents de la mariée qui organisent le mariage ou c'est,
Non, c'est la maman. C'est moi qui. Mais, encore, c'est une chance. Pour faire l'acte de mariage, lui, il doit me donner des sous. Comme cadeau, pour faire le mariage à la fille. Mais il m'a demandé, le mariage doit être dans 3 mois. Fiançailles, mariage, 3 mois. Alors, je lui dis, je ne peux pas. J'arriverai pas. J'ai pas le moyen. Et elle me demande, maman, je vais être loin. Il faut que tu me fasses un mariage pour inviter mes camarades, mes amis, tout ça. Il faut que ma famille me voie et tout ça parce que je vais être loin. Elle demande, elle insiste de faire un mariage. Et moi, j'ai pas le moyen. Son papa, c'est zéro. Tandis que moi, ce que je gagne, je peux pas. Alors, si vous voulez attendre d'ici un an. Et lui, il m'a dit, non, madame. Moi, je veux faire le trousseau de Leïla et moi, je vais te donner tout ce qu'il te faut pour faire le mariage. Alors, je lui dis, si tu es d'accord pour ça, alors il faut que tu fasses les papiers pour ta femme. Je ne veux pas qu'on ait un mariage et après toi, tu partes et la fille reste à côté de moi. Ça, non. Parce que ce sera terrible. Il peut sortir et peut rencontrer quelqu'un et tomber amoureuse de nouveau. Qui sait? Il est encore jeune. Il m'a dit tout à fait d'accord. Alors, il m'a donné 30 000 dirhams.
3 000 euros environ.
Voilà, 3 000 euros. 30 000 dirhams. Et moi, je devais emprunter 10 000 dirhams. Ce que j'ai fait. Pour faire un mariage complet. Parce que 3 jours de mariage, il fallait. Aussi, il est moderne, lui. Alors, il m'a dit, madame, il faut que je fasse sortir avec moi Leïla pour lui acheter le trousseau de ce que j'aime, moi, l'avoir mis. Les habits qu'il veut. Il a fait la même chose. C'était pour moi un soulagement. Et ça, quand c'est fini, elle doit sortir pour aller en voiture chez elle. Ils sont pris à un hôtel, eux. Mais elle doit être tout à fait couverte, qu'on ne peut pas la voir.
Vous voyez? Donc elle a un tissu qui lui recouvre le visage, les épaules. Et puis donc dessous, elle a une robe incroyable, avec des
frofous. C'est pas un foulard islamique, c'est vraiment un tissu qui est très très beau.
Un capuchon. C'est le capuchon qui est tenu au silhem. Ça s'appelle le silhem. Avec le capuchon. Et ce silhem, il est tout à fait évasé. Il se met dedans, et puis on l'entourne comme ça. Et puis on cache le visage avec le capuchon. Et quand elle se met dans la voiture, alors là, elle peut enlever seulement le capuchon.
Donc ça, c'est le moment où ils partent, normalement chez eux, mais là, c'était à l'hôtel.
Eh oui, voilà. Elle est allée à l'hôtel parce que lui,
il n'avait pas de maison.
Vous voyez, moi, j'ai pas de place pour eux, vous voyez.
Et dans un mariage comme ça, est-ce qu'ils ont tué une vache?
Oui, alors moi, j'avais pas le temps de faire tout ça. J'ai acheté la viande coupée en kilos. Vous voyez, j'avais pas. On fait 2 plats, un plat de viande et un plat de poulet. Un plat de viande avec de pruneaux. Et puis poulet avec les noix, les olives, c'est délicieux. Et le citron en tranches, décoré comme ça.
Ben, ça se passe encore au centre de Tanger, là, hein, dans la Médina, des rituels d'abattage de vaches pour des mariages et tout ça.
Oui, mais on peut, mais c'est cher.
Ah, c'est ça.
Vous voyez, les gens qui ont les moyens, oui, il y en a des gens, par exemple, le mari, il a les moyens, il achète une grande vache ou un gros bœuf. Il partage avec la maman de la mariée. Parce qu'on ne donne pas tout le temps à manger, seulement une nuit. Et cette nuit, on l'appelle la nuit de la henna. Le jour de la henna, les invités viennent tard, vers 8h, 8h30. Et vers minuit, on sert à manger. Alors là, la mariée doit faire la décoration de la henna, elle pleurait.
La henna, c'est le henné, c'est ça?
Le henné. Ouais. Vous dites henné, on dit henna.
Pourquoi c'est la maman qui paye? Le papa, il ne paye rien?
Oui, c'est le papa qui paye, mais moi je parle de moi. Mon mari ne peut pas payer. D'accord. C'est le papa, puisque s'il y a
La plupart de mamans ne travaillent pas ici. Alors c'est le père qui fait ça. Mais c'est la maman qui sait ce qu'il a besoin. Le père doit que faire sortir de la poche et payer.
Julie, on a vraiment l'impression, on sent que c'est une maîtresse femme, c'est elle qui gère. Le papa, on ne vous l'avait même pas croisé, je crois, si j'ai bien compris.
On n'en a même pas entendu parler, même pas vu, rien, non.
Alors, c'est elle qui ramène l'argent à la maison, elle gagne sa vie comment, Zora ?
Alors, actuellement, elle lave le linge, en fait, pour des hôtels qui sont autour dans la Médina.
Alors, quand on entend tout ce qui vient d'être dit par Zora à votre micro, on se dit que, ben voilà, on a intérêt à ce que ça marche, ce mariage, à faire une grande fête. Sinon, on a l'air un peu naze de ne pas faire de fête pour le mariage.
C'est ça, en fait. C'est vraiment l'étape importante de la vie d'un homme et d'une femme quand ils commencent leur vie ensemble. C'est de montrer qu'ils ont les moyens de faire un beau mariage. C'est aussi, là, dans ce cas-là, la possibilité d'inviter largement toute la famille pour dire, voilà, nous sommes ensemble. Là, elle part en plus à Dubaï, donc elle voulait vraiment inviter le banc et l'arrière-banc. Et c'est vrai qu'il s'agit de ne pas louper cette fête.
Ce qui est incroyable, c'est que Leïla... Elle fait tout, enfin la maman fait tout pour que Leïla ait une formation et tout ça, et finalement, ben voilà, elle va être une femme mariée.
Ouais, c'est quand même assez désespérant hein, quand on entend Zora. Il y a une déception et une rage, même si voilà, elle est très contente d'avoir marié sa fille, elle pense que elle va avoir une très belle vie, un très bel avenir. Mais c'est vrai qu'elle elle est désespérée. Quand on a vu comment elle a lutté elle-même pour pouvoir faire des études, et que là, elle a fait en sorte que ses deux filles puissent faire des études, finalement, les deux sont mariées et restent à la maison. Je crois qu'elle est un peu désespérée.
En écoutant aussi le récit, on ne rêve que d'une chose, c'est d'être invitée à un prochain mariage. Ça doit être incroyable. Vous deviez trépigner de ne pas y avoir été.
On était vraiment déçus d'avoir loupé cette étape-là. Non, c'est vrai que c'est merveilleux. Là, en regardant les photos, c'est un conte de fées. C'est un conte de fées des mille et une nuits. Les robes sont plus somptueuses les unes que les autres. Et puis, il y a ces repas.
Ça dure.
Et puis, c'est très, très, très organisé. C'est très ritualisé. Donc, c'est vrai que c'est assez enthousiasmant. Pas les mariages.
Mais comme ça, vous pourriez revenir en arrière.
Pourquoi pas ?
Vous avez croisé des scènes de mariage ?
Alors, on a vu juste dans les rues, justement, un petit peu plus haut de la Casbah, effectivement, un mariage. Donc, on a vu les fameuses vaches de ceux qui ont les moyens d'avoir une vache qui se promène dans la Médina et dans la Casbah avant d'être égorgée. On a vu ça un petit peu fugitivement, mais c'était très impressionnant parce que c'est. Du coup, là, on est vraiment dans une plongée très traditionnelle. On est très loin des mariages actuels, c'est-à-dire là, il y avait vraiment toute une foule qui accompagnait le marié, notamment. On n'a pas vu la mariée, mais en tout cas le marié, et puis voilà, les gens autour, les tambours, la fête, les cris, et puis on comprenait pas tout. Voilà, on savait pas non plus aussi si on pouvait rester, comment ça fonctionne, hein, c'est-à-dire est-ce qu'on est bienvenu, est-ce qu'on est sur un territoire très privé qu'on ne saisit pas. Donc voilà, mais c'était très impressionnant.
Bon, moi j'ai retenu qu'en tout cas vous regrettez de ne pas avoir fait un mariage comme ça. Julie Gilbert à notre micro, on retrouve Zora après cette chanson.
فيا ماشي المسكن برش كتاف والأحلام يدرع وجنة في منامي وخير من عيني يا عيني تشوف قدامي هو اللي شد بيدي وقطع بيا لبصور هو اللي علي نغني ونكتب ونقول واسبيح هو المالح والأحلو هو الرفيع اللي ما كان بحلو هو الزين هو الفايق الرزين والعاشق الحنين ما كان بحلو قلبي شافي خيالو هو اللي أنا تنبغي
Détour rencontre à Tanger dans la Médina, Zora.
Et votre mariage à vous, il était comment?
Je vais vous montrer une photo de mon mariage. Quand un blanc et noir, des photos. Il n'y avait pas de couleur. Me voilà. Moi, maman, ma soeur, mon mari.
Votre mari, vous l'avez rencontré comment? Vous ne le connaissiez pas, il ne vous connaissait pas. Il est arrivé tout seul, comme ça?
Non, on ne se connaissait pas. Il m'a vu parce que moi, en descendant faire le dactylographie, en passant à côté du café où il travaille. D'accord. Il travaillait. Et puis, il m'a regardé. Je ne sais pas comment il a demandé, comment il a connu mon oncle, le frère de mon père. Mon oncle s'installait dans le café. Il connaissait bien mon oncle. Mais comment il a su que c'est mon oncle? Il s'est dirigé directement vers mon oncle en lui disant « Moi, je voulais demander la main de la fille de ton frère. » Et mon oncle est venu parler avec mon père en lui disant « Il y a un bonhomme bien tranquille, bien sage, qui ne boit pas, qu'il est bien, il veut avoir une bonne fille, alors il demande la main de ta fille. » Et là, mon père est venu me dire « Voilà, pour arrêter ce scandale qui est entre toi et ton frère, il faut que tu te maries, ma fille. » J'avais pas d'autre choix, vous voyez. Et comme ça, pour arrêter le bataille et pour que je fasse ce qu'il a demandé mon papa. De faire. Avant, c'est pas maintenant. Maintenant, si on n'est pas bien content, si on n'est pas bien chez nous, on peut se sauver, on peut aller faire notre vie. Vous voyez, avant, non. C'était honte de quitter la maison sans autorisation. Une jeune fille ne doit pas quitter. Il doit rester toujours à côté de la famille jusqu'à ce qu'elle se marie. C'était pas comme maintenant. En 70, c'est pas 2000.
Aujourd'hui, pour les jeunes femmes, c'est beaucoup plus...
Tout à fait changé. Par exemple, moi, avec Hafida, elle était à peine opérée. Elle voulait se marier. Je lui dis, mais ma fille, si tu veux te marier, il faut qu'on te trouve quelqu'un qui a... les moyens, parce que tu es presque cardiaque. On ne sait pas ce que ça va refaire. Elle m'a dit, non, maman, je veux 7 ans. Alors, elle a posé l'homme qu'elle a voulu. Le fils, la même chose. Les garçons, c'est eux qui ont choisi leur dame. Le grand, qui a 27 ans, c'est lui qui a choisi la dame. Ils sont bien maintenant. Il a fait sa vie, il travaille bien. L'autre, il travaille dans une société. Il fait mécanicien des machines à coudre. Et cette dame, c'est une chef dans cette la société. Alors, elles se sont mis d'accord maintenant. Ils sont bien mariés, ils ont une fille. Et elle, elle attend un bébé maintenant. Ils ont bien fait leur vie. Et je suis heureuse pour eux. Et puis, le dernier, peut-être qu'il viendra maintenant. Il me dit, maman, il faut que tu ailles demander la main d'une fille qui travaille avec moi. Ça va se passer. Il va me donner de l'argent parce que c'est lui qui a choisi. Alors, il va me donner un peu d'argent pour acheter un cadeau pour... la jeune fille, et puis il faut que j'emmène avec moi le sucre. Ça, c'est... Pourquoi? Parce que leur vie soit toujours sucrée. Vous voyez? Alors, nous allons voir, et en plus, on voit les parents, comment ils sont. Il y a des parents qu'on ne peut pas supporter. Vous voyez? On voit les parents. Alors, c'est tout à fait net et on voit que ça va être bien. Alors, je dis à la maman, écoute, madame, dans une semaine, je reviens. C'est-à-dire que c'est oui. Alors, dans la semaine, il faut que j'achète une bague, mais comme ça. Pas une bague avec une couronne, quelque chose, ça, après. Ça, pour faire voir aux gens que cette fille, ça y est, c'est déjà prise.
Donc, c'est une bague de fiançailles.
Fiançailles. Comme ça. Alors, je donne le rendez-vous et la prochaine fois que je dois retourner, alors là, c'est un peu... Il faut que tout soit prêt parce qu'on s'habille bien, nous et eux, et on s'installe à nous regarder, à faire connaissance, qui est celle-là, qui est celle-là. On parle, on voit comment on parle, comment on s'installe. Après, si on est d'accord, on met la bague de fiancée à la fille, ça y est, on a parlé. Et puis, ça dépend, on dit à la maman, alors combien tu demandes pour faire l'acte du mariage à ta fille? Il y a des mamans qui disent, moi je ne connais rien, il faut que j'appelle le papa. Il y a des mamans qui disent, oui, c'est moi qui parle.
Et là, ton fils, ça va être la première fois qu'il présente une femme?
Oui.
Et il a quel âge?
Il a 25 ans. 25 ans, c'est l'âge.
Et après, une fois que les fiançailles sont faites, on ne peut plus changer d'avis?
Non. Non. Qui sait? Ça, je ne peux pas vous dire oui ou non. Qui sait? Il y a qui se fiancent, qui mettent les bagues, et puis une fête de fiançailles et tout ça. Mais là, on ne peut pas rendre l'argent au garçon. Parce que si le garçon a dit non, je ne veux pas cette fille, après le fiançailles, après l'acte, alors la fille ne rend rien. C'est elle qui a gagné. Parce que c'est lui qui a demandé. Mais si la fille a dit non, je ne veux pas de ce garçon. Je le connais après le fiançailles, ça ne me va pas, ça ne me plaît pas et tout ça. Alors, elle doit rendre tout ce qu'ils ont apporté à la famille du garçon et le garçon. Mais là, on a parlé sérieusement, mais pas encore les fiançailles. Les fiançailles, comment ça se fait? Le garçon avec son papa, la fille avec son papa, ils vont aller voir un monsieur au tribunal qui écrit les actes. Il emmène avec le carnet de vie. Ils vont faire le fiançailles là-bas. Le monsieur qui inscrit va demander au père de la fille, « Combien tu as demandé ?» Le papa va dire, « J'ai demandé tel et tel argent. » Alors le monsieur demande, pas au garçon, au père, « Est-ce que monsieur, votre fils, est prêt à donner cet argent ?» Voilà le garçon qui pose cet argent sur la table. On les compte, on inscrit, voilà, le garçon a payé... comment ça s'appelle?
L'acte de mariage.
Ah voilà, l'acte du mariage de la fille. Maintenant, on les annonce mariés, fiancés, mariés. On dit mariés, oui. On attend que la fête. S'ils ne veulent pas faire, c'est pas obligatoire de faire une fête.
Et puis, qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire avant d'être mariés? Est-ce que là,
ils sortent, ils peuvent voyager, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, pas avoir d'enfants.
C'est ça.
Faire attention de ne pas avoir d'enfants. Non, avant l'acte, ils se rencontrent en cachette.
D'accord, c'est
en
ça.
Cachette.
Officiellement, ils n'ont pas le droit d'aller boire un café ensemble.
Surtout la fille. Surtout la fille. C'est là, mon lui dit, mais tu es en retard ou tu étais? Est-ce que tu étais avec lui? Non, maman, je suis en travail, j'ai fait des os supplémentaires. Des mensonges comme ça.
Et ton fils, il voit cette femme en cachette?
La fille, ouais. Ils travaillent ensemble. Ils mangent ensemble. Tout le temps, ils ont de la chance. Hein? C'est une chance qui s'ouvrait à mes enfants. Alhamdoulilah, grâce à Dieu.
Donc en fait, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais en cachette.
En cachette. Mais ils ne sont pas fous de faire ce qu'ils veulent. Parce qu'elle, elle a peur de ses parents. Tandis que lui, c'est un homme, c'est un homme. Tandis que la fille, c'est elle qui doit surveiller un petit peu. Mais après le fiançailles, ils sont libres. Mais pas avoir d'enfants. Si l'enfant arrive, ça arrive dans le hasard. Si par exemple, ils sont partis en voyage, ils n'ont pas fait attention, elle est enceinte, alors pas de fête.
Ah oui, c'est ça.
Non, pas de fête. Tout de suite, elle vient dire à sa maman, voilà maman, il m'est arrivé que je suis enceinte de 3 ou 4 mois. Alors la maman appelle le garçon et lui dit, voilà, c'est toi qui l'as fait. Alors, c'est toi qui l'as fait. Ou bien tu cherches le loyer pour prendre ta femme tout de suite, avant que ça grossisse. Ou bien, on va te chercher. Nous, on va chercher le loyer pour toi. Il se précipite à aller chez elle. Eh oui, c'est ça. C'est notre vie. Mais maintenant, on commence à se moderniser. Maintenant, c'est moderne. Maman, c'est mon amie. même que maman était un peu dure, très dure pendant notre jeunesse. Pourquoi ? Parce que maman s'est mariée très jeune, à l'âge de 15 ans comme ça. Maintenant, mon père s'est décédé, il y a 2 ans. Et puis mon père était plus âgé que ma mère. Mon père, maman, c'était la 4e femme dans sa vie. Là.
La 4e, l'une après l'autre ou en même temps ?
Non, pas en même temps. Oh. Il divorce.
D'accord, c'est ça.
Pourquoi ? Parce qu'il voulait avoir un garçon. Il y a la première qui n'a pas donné d'enfant. Il a divorcé, il a pris la deuxième. La deuxième n'a pas encore donné d'enfant. Il a divorcé, il a pris la troisième. La troisième a donné 2 filles. Maintenant, j'ai 2 filles de mon père. Et la première, elle a l'âge de ma mère. Vous voyez, maman, le premier, c'était mon frère. C'est lui qui m'a battue. C'était le premier, Louis. Alors là, mon père, il dit, voilà, je voulais un garçon, j'ai un garçon. Mais après le garçon, c'est 3 filles, moi et mes 2 sœurs. Et après, il y a 5 garçons aussi. Et après, la fille, c'est la fin. Nous étions 11, et puis, maman, c'est la 4e femme, mais elle était encore jeune, et mon père était âgé, alors... C'était la prison pour elle, la pauvre. Elle ne devait pas sortir. Elle ne devait pas rencontrer des femmes. Elle ne devait pas aller nulle part. Et elle a accouché les 11 à la maison. Pas à l'hôpital. La jalousie, parce que c'est un berbère, mon père. Hein. Il dit, la femme est plus jeune. On peut lui tourner la tête. On peut lui dire qu'il est plus âgé qu'elle. Et nous, quand on avait l'âge de l'école... Alors, elle ne voulait pas que nous sortions pour aller à l'école. Pourquoi ? Parce qu'elle, elle est prisonnière et nous, nous sortons.
Donc, ton père, en fait, lui a permis, ne voulait pas qu'elle sorte, mais a été très moderne parce qu'il voulait que tu fasses des études.
Que nous faisions tous. Pourquoi ? Parce qu'il travaillait avec, il y avait des Espagnols au Maroc. Il travaillait avec des Espagnols et il voulait que ses enfants soient modernes comme les Espagnols. Nous habitions comme les Européens, des pantalons, des bottes, des vestes, tu vois ?
Mais il ne voulait pas que sa femme soit moderne comme les Espagnols.
Non, sa femme, non. Sa femme, son travail, donner les enfants, c'est production, voilà, je disais. Production d'enfants et élever. Ça y est, c'est ça la femme pour lui.
Et maintenant, ta mère, elle est bien elle est...
Très bien, mon elle père est mort. Mon père est mort, maman est devenue très plus jeune.
Oui, c'est ça.
L'autre jour, on l'a amené voir un docteur et le docteur nous a dit, à moi et ma soeur, il faut lui trouver un mari. Vraiment. Alors lui dit, maman, tu vois ce que le docteur a dit? Non, non, laissez-moi tranquille. Ah oui, elle est devenue coquette. Non, elle est toujours, elle aimait toujours s'habiller. Elle était toujours propre. Elle était, maman est jolie. Mais elle ne sortait pas. Elle s'embêtait parce qu'elle est toujours propre, bien coiffée, bien habillée. Elle voulait qu'on la voie. Et mon père voulait qu'à lui. Seul. Alors maintenant, après la mort de mon père, oh là là, maman. Maintenant, elle sort comme une jeune fille de 20 ans, ma fille.
Sans foulard ?
Non, non, sans voile.
Sans voile, mais elle garde le...
Non, le foulard, non. Moi aussi, je ne veux pas être sans foulard. C'est les habitudes. Et puis, c'est vrai, c'est bien. C'est l'islam. Ma fille Hafida et ma fille Laila ne portaient pas de foulard. Hafida, jusqu'à ce qu'elle s'est mariée, elle m'a dit, maman, je veux te suivre, je veux mettre le foulard. Mais Hafida, Leïla, non, elle est toujours avec... C'est son mari qui volait comme ça. Elle est libre.
Ouais.
Mais à mon âge, c'est bien de...
C'est bien d'avoir le foulard.
Non, c'est bien. C'est un respect. On est respecté par nos enfants, par nos petits-enfants. On est... Par exemple, mes petits-enfants savent que je suis grande maman maintenant. Avec le foulard. Mais si je m'habille comme leur maman, pas de différence, n'est-ce pas?
Julie Gilbert, c'est un petit peu paradoxal parce qu'on a entendu le papa tout à l'heure qui soutient sa fille Zora en souhaitant qu'elle fasse des études et puis en même temps qui avait un autre regard sur sa propre épouse.
Ouais, c'est vraiment à l'image en fait du Maroc aujourd'hui, c'est-à-dire c'est un pays qui est pris entre des traditions extrêmement fortes et puissantes et de l'autre côté, on vit que ça change, on vit d'une autre vie.
Infotrafic RTS.
Soyez très prudents si vous circulez sur l'autoroute Genève-Lausanne. Un véhicule roule à contresens sur bande d'arrêt d'urgence entre Nyon et Gland en direction de Lausanne.
Mais et les femmes sont au milieu. Les femmes, là, on a vraiment l'histoire très traditionnelle d'une femme d'un milieu populaire à Tanger. Mais je pense que, par exemple, on a rencontré des femmes qui ont décidé de vivre seules, de ne pas se marier, pour qui la vie est très rude. Oui, donc voilà, c'est tout le temps entre les deux.
Ce qui est frappant aussi, enfin, ce qui nous frappe toujours, même si nos parents ont vécu peut-être ça, c'est les mariages organisés complètement et pris en charge par les parents. Ce qu'on peut se dire comme ça rapidement, c'est que, vous me le disiez en antenne tout à l'heure, ça se passe comme ça dans la moitié du monde, hein, les parents qui organisent les mariages. Mais la conclusion, c'est peut-être de se dire que c'est pas pire, quoi. Il y a peut-être pas plus de divorces.
C'est vrai que du coup, c'est une organisation d'ordre social. C'est-à-dire, ce sont des gens qui viennent souvent du même milieu, donc qui ont les mêmes références, les mêmes fonctionnements. Et du coup, peut-être, ça dure peut-être plus sur le long terme, on va dire.
On va se quitter avec Zora qui parle encore de son homme dont on a compris qu'il n'était pas présent, peut-être un peu fade, on ose dire ça. Non, on ne le dit pas.
On ne le dit pas trop, mais c'est quand même ce qui jaillit de la situation avec Zora.
Mais c'est qu'un jour, elle a réalisé aussi qu'il avait une double vie. C'est peut-être ce qui lui a donné son aisance à prendre son envol.
Comme on a entendu, Zora, c'est vraiment une femme extrêmement vigoureuse et qui est forte, puissante, prête à tout. Et c'est vrai que quand elle a découvert un jour que son mari avait une autre femme et deux enfants beaucoup plus grands, alors là, elle disait, mais c'était un ouragan dans sa tête. Et elle s'est dit, stop, maintenant c'est moi vraiment la reine du foyer.
Mon mari, maintenant, à la retraite, qu'est-ce qu'il fait? La mosquée, la maison. Maintenant, jusqu'à la dernière prière, il fait la dernière et puis il revient chez lui.
Mais il reste toute la journée à la mosquée?
Pas tout à fait. Café.
Café, mosquée.
Café, mosquée, maison. Télévision. La chance. Il a de la chance, mon mari. Toujours allongé devant la télévision. Il ne fait pas marcher la mémoire et s'occupe de rien. C'est moi. S'il y a quelque chose à faire, c'est à Zora. S'il y a quelque chose à changer, c'est à Zora. Et moi, je suis comme ça. Il faut que je bouge tout le temps. Et je ne veux pas voir des choses abîmées, tandis que lui s'en fiche.
Mais ton mari, t'as jamais interdit de sortir?
Non, parce que on se mariait, c'est ce que j'ai demandé. Je lui dis, si tu ne me laisses pas sortir, ou aller, si je suis invitée, tu m'arrêtes, alors là, tu ne me trouveras plus jamais à côté de toi. Non, j'étais libre, moi. J'étais libre.
Julie, Gilbert, Frédéric Chauffin qui nous ont permis de rencontrer Zora et de rencontrer Tanger aussi à travers Zora. On espère que vous allez nous apporter d'autres reportages, Julie, Gilbert, et que vous allez nous embarquer dans d'autres destinations. On reste à l'affût de vos propositions et de vos films aussi, puisque je le rappelle, vous êtes scénariste et que Frédéric Chauffin et cinéaste, vous travaillez ensemble et vous êtes en train de concocter, on l'espère, de très beaux projets. Au revoir, Julie.
Infotrafic RTS.
Soyez toujours très prudents si vous circulez sur l'autoroute Genève-Lausanne entre Nyon et Gland en direction de Lausanne, car un véhicule roule à contresens sur la bande d'arrêt d'urgence.
Tours. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous passerez demain un excellent dimanche. Et je vous retrouve sur la première lundi, entre 13h et 14h, avec une voyageuse intrépide qui écrit aussi, Caroline Rigel. Sur la première, il est exactement 16h.